Mais la promenade dans la nature et dans l'urbain est beaucoup plus ancien que le XXe siècle. Quand on regarde dans l'histoire culturelle des déplacements pédestres sans but, c'est que pour but de se distraire ou de se ressourcer, il faut retourner dans le 18e siècle. Et ce mouvement des poètes du district, de Lake District en Angleterre, les poètes autour de Wordsworth, qui se promènent et qui disent que pour leur poésie, c'est essentiel d'être en mouvement. Après, avec le mouvement des jardins anglais, plus proche de la nature que le modèle géométrique du jardin, c'est un des incitations à la promenade. Et les gens, des bourgeois, se mettent à marcher depuis le milieu du XVIIIe siècle. Et peut-être même avant. Alors, je pense peut-être le but de ces pratiques, de se promener, est peut-être être lié avec des cures, c'est-à-dire avec un but thérapeutique, ou de se distraire, ou de ressourcer le corps et l'âme, l'occasion d'une cure. Cette pratique est beaucoup plus ancienne encore.
Ville Nature, cette promenade écologique et sonore à la découverte du territoire marseillais. Dans le prolongement de son livre « Marseille, énergie et frustration » sorti aux éditions Autrement en mai 2006, Baptiste Lanastez invite à une série de promenades sur la commune de Marseille, entre ville et nature.
C'est cette ligne de chemin de fer qui était, c'était la desserte pour la sucrerie, pour la raffinerie de sucre. Que la sucrerie n'a pas voulu céder à la ville, qui fait que maintenant le parc bio a deux hémisphères en quelque sorte. C'est comme un cerveau qui est côté gauche, côté droite, et entre les deux, il y a cette voie de chemin de fer.
Qui appartient aujourd'hui encore, toujours
À la sucrerie.
D'accord.
Et qui voulait, pourtant, il n'y a plus de train qui passe, mais qui ne voulait pas abandonner cette possibilité d'accès au réseau.
D'accord. Alors c'est quoi l'équipement de promeneur urbain?
C'est la lampe frontale. Comme en montagne, quand on démarre très tôt du vide. Ça te connaît, non? Pyrénées.
T'en as une pour toi?
Oui.
Merci. On va passer dans ce tunnel là, il est petit.
En fait, la lampe de poche, tu l'as menée pour te montrer ça.
Qu'est-ce que c'est?
Une pièce ici, je sais pas.
Ah, on est dans une pièce. Ça attends, nos yeux vont s'habituer un petit peu à l'obscurité, peut-être.
Ouais.
C'est voûté?
C'est voûté, ça a combien de mètres? 6 mètres d'auteur. Sur une longueur de... Oui, pas très loin de 10 mètres.
C'est un rapport avec l'eau qui coulait ici, tu crois?
Je ne sais pas. Oui, c'est une évocation d'eau, ça c'est évident. Affluent du ruisseau des Égalades. C'est toujours sec. Mais c'est pas... Je sais pas des...
Qu'est-ce qu'on voit?
C'est juste un plateau, là, ici, mais il n'y a pas de signe de squat ou de matelas, des STF. Mais ça peut être un lieu... propice.
Mais il faut le trouver.
Non, mais ça, oui, il y a des passages ici. Pas beaucoup, parce qu'il y a des ronces. Mais...
C'est plus propre que dans les rues de Marseille, en fait, non, ici?
Oui, c'est pas... Alors, j'ai une hypothèse pourquoi c'est si propre, parce que à côté, il y a le parc Biou, avec son jeu d'enfant, jeu d'eau. Et comme on l'a vu l'année dernière, qu'il y a des
centrerai, qui vient ici pour jouer avec l'eau, et que toute leur eau est évacuée par cette petite canal ici. Alors que ça fait que...
Ça nettoie.
J'imagine que ça a lieu aussi en été, alors ça nettoyait.
Et là, on débouche sur...
Sur la partie canalisée des Égalades.
En plein air, ce coup-ci. Je te rends la lampe frontale, après il n'y a plus de tunnel.
Oui, il y a un autre tunnel, mais c'est dans 2 km à peu près.
Donc on va vers le nord, là, c'est à plein nord. Hein,
on va vers le nord, oui. Ouais.
Arrivée d'eau sale, tout ça, non?
Oui, ça c'est
des eaux du trottoir, des...
C'est ça, le ruisseau évacue de l'eau, en partie de l'eau superficielle.
Mais de pas l'eau. Des eaux d'égout?
Non, a priori non.
En théorie?
En théorie, oui. C'est pas exclu que quelqu'un les branche dessus, mais à mon avis, ça, je sais pas.
Ça c'est les eaux de la voirie, en tout cas, qui arrivent ici.
Oui. Il n'a pas plu, alors ça doit être quelqu'un qui arrose ou qui... C'est quand même une fuite quelque part. Un petit trottoir aménagé. C'est seulement maintenant qu'on arrive au Deschamps et Cabot. C'est fait d'ailleurs par un architecte marseillais célèbre qui s'appelle, son nom m'échappe, mais c'est le même architecte, le même bureau qui a construit aussi le plan d'Aou.
Dans les années 60, je sens ça.
Début de l'année 60, oui.
Ça, c'est une industrie encore en activité.
Oui, là, c'est le marchand d'acier, en fait, tout le... Tout le métallier du nord de Marseille se fournit ici. C'est très beau d'ailleurs, c'est un très grand hangar là qu'on va longer. Et ils vendent là des barres de, je ne sais pas, de 6 mètres de longueur, sont articulés avec des grues. Il y a des vendeurs, comme dans un supermarché, il y a des vendeurs par rayon. Il y a des vendeurs des aciers plats, des aciers ronds et qui vont à la découpe.
C'est ici que les ferronniers de la Cabucelle viennent se fournir?
Oui, j'imagine.
On remarquait avec Rémi l'autre fois qu'il y avait pas mal de macro-déchets, donc des bouteilles, des plastiques, des gros objets,
oui.
Mais que l'eau avait l'air assez transparente. Est-ce que tu l'as déjà vu très sale, toi ou...
Oui, il y a des probablement des phosphates dedans, parce qu'il y a des mousses. Ça fait même ça fait la mousse, des bulles. Il y a des... C'est sale, et c'est aussi... on le sent aussi, on ne le voit pas seulement, on le sent.
Tu n'as jamais vu de poisson dans le ruisseau des Égalades?
Non. Mais c'est pas exclu qu'il y ait des poissons.
Des poissons urbains.
Oui. Et ça c'est très drôle maintenant parce qu'il y a vraiment du on peut imaginer qu'on est le lit est naturel, c'est un peu aménagé, il y a des murs de soutènement en moulant qui donnent sur la raffinerie. Du sucre, c'est la gauche, c'est le côté ouest. De l'autre côté, il y a des platanes. Des platanes, alors avec leur racine qui cherchent l'eau, on a l'impression qu'ils cherchent l'eau, qu'ils sont très ramifiés.
Et c'est vrai que cet arbre est exceptionnel parce que les racines sont visibles sur presque 10 mètres,
oui.
Par-dessus le mur de soutènement pour aller jusqu'au ruisseau, pour chercher de l'eau, on dirait des branches.
Oui, des branches, oui.
Hendrik, tu sais depuis quand le ruisseau des Égalades a été bétonné?
Non, je ne le sais pas, mais j'imagine que c'est lié avec les raffineries de sucre. La raffinerie de sucre est ancienne, elle date du milieu du 19e. Alors j'imagine que c'est à ce moment-là qu'ils ont aménagé les bords, en tout cas le bord ouest, parce que là on le voit bien, les melons, ça correspond aussi à au style pont et chaussée du 19e, au début du 20e. Et après, on va voir d'autres. Alors, l'aménagement date forcément de plusieurs époques, parce qu'à la fin de notre balade, on va arriver aux Égalades. Et là, des Égalades étaient aménagées à l'occasion de la construction de l'autoroute, beaucoup plus tard.
Mais en fait, l'eau a creusé dans le béton. Il y a une érosion dans le béton, donc effectivement c'est un béton qui a un siècle probablement.
Oui, c'est rigolo, ça donne presque maintenant des formes naturelles, l'érosion du béton. Oui, parce qu'on voit qu'il peut avoir des crues quand même, et ça, quand ça transporte les pierres, ça peut éroder.
Et le bassin versant du ruisseau des Égalades, c'est Saint-Antoine, c'est quoi?
C'est Saint-Antoine, mais je n'ai pas vraiment arrivé à situer la source. Alors, soit c'est le Pen Mirabeau, soit c'est le septem. De toute façon, c'est un petit fleuve, parce que ça mène à la mer, un petit fleuve côtier, mais qui est pas très long, qui a pas peut-être une dizaine de kilomètres, 10, 15 kilomètres, 20 kilomètres.
Et le ruisseau débouche à Arinque, à quel endroit exactement, si les gens veulent voir?
Et l'embouchure, je ne l'ai pas vue, ça part sur les dernières centaines de mètres, ça part en souterrain, qui est en partie, qui est praticable, mais je ne l'ai pas poussé jusqu'à l'embouchure. Et je n'ai pas regardé du côté mer, normalement que l'embouchure devait être visible, même si c'est sur un bassin de port, on voit par le mouvement d'eau, ou même par les algues qui sortent, on voit que... Il y a une arrivée d'eau douce. Je ne sais pas, c'est encore quelque chose à creuser.
Ça sent pas bon.
Mais ça sent, à mon avis, ça sent les matières de la raffinerie.
C'est pas le ruisseau qui sent ça.
Non.
C'est bizarre, ici l'eau est très trouble alors que quelques centaines de mètres en aval elle était claire. Ouais.
Mais ça peut être lié avec les dépôts aussi, le substrat n'est pas le même. Alors, concernant la pollution des rivières, dans la région il y a un monitoring de l'eau des rivières. Je crois que c'est coordonné entre autres par la DIREN. Qui sur la hydrométrie évidemment, mais aussi sur l'état biologique en fait. Mais les Égalades ne semble pas faire partie de cet réseau. Par exemple sur l'Uvonne ou sur le lac ou la Cadière à Marignane, on trouve des données. Il y a des stations d'études en fait où on utilise l'indicateur faunistique des animaux en fait, qui vivent, qu'on trouve dans l'eau pour évaluer parce qu'ils accumulent en fait les nuisances sur une longue période. Alors ça sert pour donner une indication sur la qualité biologique de l'eau.
Et sur les Égalades, il n'y a rien?
Pas à ma connaissance, en tout cas c'est pas communiqué.
Parce qu'il est trop petit peut-être?
Peut-être il est trop petit, oui. Ils ont fait un choix des rivières importantes, peut-être aussi un choix, je ne sais pas, peut-être aussi, on ne veut pas voir peut-être des rivières trop polluées.
C'est vrai que là on n'a pas vu un seul bout de vie dans l'eau, il y a de la mousse.
Non, quand on cherche, on va trouver, il y a quelques organismes qui se sont même spécialisés pour la survie, pour la vie dans des eaux polluées.
À part les algues vertes échevelées, tu crois qu'il y a autre chose?
Oui, il y a des larves, des larves d'insectes, il y a des... Qu'est-ce qu'il y a encore? Peut-être quelques autres. animaux purement, petits animaux purement aquatiques. Il faudrait soulever quelques pierres pour voir ce qu'on voit. À mon avis, ce sont des petits mollusques, mais oui, oui, on voit ici des petits escargots.
C'est l'usine de sucre toujours.
Oui. L'usine de sucre d'un côté et l'autre côté, c'est ce petit parc d'activité avec une installation électrique qui produit une installation électrique. Voilà le SNEF.
Les ouvriers en t-shirt du SNEF.
Le SNEF, ouais. Voilà les installations électriques. La preuve que je ne raconte pas de conneries.
À cet endroit-là, on arrive à peu près à la fin de la partie bétonnée du ruisseau, non?
Je crois, oui. Et maintenant, c'est notre séquence, en fait, c'est la séquence du en côté F fait en acier pour éviter que le crassier du terre rouge, en fait, du reste de l'extraction de bauxite glisse dans le ruisseau. Et je crois qu'à cet endroit-là, les lits n'est plus bétonné.
On y va ?
Oui, on y va.
Hendrik a vu de nez la distance entre le parc Bidou et le couvent des Carmes. C'est combien de kilomètres à peu près ?
2 kilomètres peut-être. Okay. En fait, je connais toute une partie du ruisseau naissant, je ne connais pas. Mais je l'ai vu sur le plan que ça démarre soit à Septem, soit probablement une partie sur la commune de Septem, une partie sur la commune de Penmirabeau, alors ça correspond à peut-être une quinzaine de kilomètres au total. Là, on voit la cheminée de la somidite. En fait, la somidite, c'est un producteur qui est sur le terrain de la raffinerie. La somidite, c'est un succursale de la... ça fonctionne ensemble avec la société d'eau de Marseille. C'est un producteur de l'eau chaude qui est envoyé ou qui chauffe plusieurs milliers d'appartements dans le quartier nord, qui était à un moment donné était aussi le somédite avec la société d'eau de Marseille était candidate pour l'incinérateur. On voulait utiliser le terrain de terre rouge les déchets de l'usine d'aluminium, de alumine. Mais il y avait il y a quelques années un mouvement trop important, les habitants, les associations qui ont pu éviter cette installation-là.
Et ces terres rouges, c'est pourquoi elles sont rouges là?
C'est l'oxyde métallique, l'oxyde de fer surtout, qui vient de l'extraction d'aluminium, de bauxite.
Donc c'est le résidu de l'activité industrielle, ça?
Oui, c'est le bauxite qui est arrivé, qui était traité ici pour extraire l'alumine, pour la fabrication de l'aluminium, et qui est déposé ici, proche de l'usine. L'usine, à la Suisse au départ, puis chez Nez après, a commencé au début du XXe siècle, je crois qu'au 1905 ou 6 ou 7, avec l'agent suisse. Ils ont tenu la production. Avant, je crois que le bauxite arrivait même du site en fait, du Var, à côté de Saint-Maximin. Après, le bauxite est venu de plus loin, de Cévennes, je crois, ou même de plus loin encore. Ça fonctionnait dans les années 70, je crois, et après. Et c'est à un moment donné, Marseille, il y avait trois usine d'aluminium dans la région de Marseille, avec un très gros site de production à Saint-Méné, dans la vallée de l'Yvonne. Et c'est devenu, je crois, quand même le plus gros producteur d'alumine européenne, ce système autour de Marseille. Mais ça n'a pas duré, après c'était les Australiens qui étaient plus forts.
Tu as déjà rencontré quelqu'un pour le récit des égales?
Oui, oui. Alors, la première fois, on a rencontré des riverains en fait, qui se sont construits un petit jardin sur la rivière. Une personne ou deux personnes, et une autre fois, on a rencontré deux enfants qui jouaient. Et aussi bien l'un que l'autre était surpris de cette rencontre. Et une autre, la dernière fois, je suis venu avec Christine Breton et Laurent Malone, qui ont organisé une balade pour le Mucem, et qui ont traversé les ruisseaux qu'ils ont trouvé. On est descendu pas très loin d'ici, sur la colline de Terre Rouge. Et Laurent a même aménagé un petit pont pour traverser avec des chaussures, rester au sec. On a quitté après le rive sur le terrain d'une entreprise. En fait, c'était un samedi, je crois. Oui, c'était un samedi matin, alors il n'y avait plus personne. On a traversé une ville. Mais je suis curieux, peut-être là, on vient de rencontrer les personnes, les électriciens de la SNEF. Peut-être on va rencontrer encore d'autres avant de quitter la rivière.
Donc des enfants, des ouvriers et des artistes.
Oui, les artistes, c'était le groupe avec lequel je suis venu. Oui. C'était ça. Ce sont des endroits en fait propices pour le matin pêcheur. Moi, j'ai vu un couple dernièrement, c'est tout à fait étonné, sur une toute petite... plan d'eau à Saint-Henri, dans la zone d'activité de Saint-Henri, qui volait là. Alors, pour la promenade, ce type de passage est intéressant, parce que là, on sait qu'on voit, qu'on soupçonne qu'il y a un passage autrefois pour pratiquer. C'est intéressant de savoir un peu plus. J'ai envie d'aller là, d'y mettre là-dedans. Un passe qui est muré. Quelques années, j'ai cherché les accès aux régulades quand je ne savais pas où rentrer dans le lit. Et j'ai fait toutes les impasses vers le indiqué sur le plan, mais tous étaient bouchés, comme celui-là. C'est la première, mais je crois qu'il y a deux ou trois qui suivent maintenant. Alors, le plaisir, c'est pour moi de se trouver en ville, mais en même temps, la ville ordinaire va dans le deuxième plan, on l'entend. Mais très, très doucement, et les choses qui sont plus directes sont le bruit du vent, le bruit de l'eau.
Et en même temps, on sent bien qu'on n'est pas à la campagne non plus.
Non, on n'est pas à la campagne non plus, on est dans un espace intermédiaire. Non, on ne peut pas passer par là, mais j'ai vu des enfants. Quand je l'ai rencontré la première fois, je l'ai vu ici. Mais là, c'est maintenant des gravats, c'est quelqu'un qui a évacué sans les gravats d'un chantier. Sur le rive. Ah oui, ça c'est intéressant. Ça, il y a quelqu'un qui a mis un pompage, quelqu'un qui utilise l'eau pour arroser son jardin, probablement.
Et qui a fait un barrage et qui a pompé, ouais.
Oui, il y a une plumoute qui est installée. Un tuyau avec un filtre. Et la pompe est plus haut. Oui, il y a deux messieurs qui sont là. Bonjour. Oui, il y a une seule qui est passée.
Un seul martin pêcheur, ouais, qui est passé à 50 cm au-dessus de la rivière à grande vitesse.
Mm-hmm. Mais là, c'est plus ou moins, oui, c'est même un terrain de course ici avec le mur de soutenement qui est très très droit. Alors sur presque 100 mètres, c'est tout droit.
Mais Hendrik, s'il y a des martins pêcheurs, ça veut dire qu'il y a des poissons, ça vit de poissons les martins pêcheurs, non?
Oui, souvent, sur des images peintes, on les voit avec un petit poisson dans la bouche. Mais je ne sais pas s'il ne peut pas vivre aussi d'autres choses.
Apparemment, si, parce qu'ici...
Bon, ça s'est vérifié, on a demandé à un naturaliste. J'ai quitté les ruisseaux pour aller au... dans le qu'on s'appelle la zone de la Delorme, zone d'activité de Delorme, où on peut passer ici par travers d'une entreprise, le train d'entreprise, Régagnier Saint-Louis.
D'accord.
Et je vois que maintenant il y a une petite cabanon de cabanon en bois, abri de jardinier peut-être. Ou... Là je me rappelle, on a plusieurs endroits ici sur ce chemin, on voit des installations hydrauliques. Parce que là il y a une rainure dans les pierres là, en calcaire qui est taillée. Probablement une rainure pour une vanne ou une installation. On va tomber tout à l'heure, on va tomber sur une roue de moulin, du moulin qui est vraiment intacte. Alors il y avait une ou plusieurs moulins sur cette ruisseau. À la fin, si on arrive, on va voir même des installations plus consistantes, vraiment des chutes d'eau qu'ils ont récupérées pour le moulin. Mais même ici plus bas, on voit que c'était aménagé probablement pour la force hydraulique, je pense. Et pas très loin d'ici, sur le côté est, il y a la gare des poubelles de Marseille. Maintenant que la gare de Prado était devenue jardin, maintenant les gares ou les trains vers la décharge entre sens sont chargés, se retrouvent ici, à Saint-Louis.
Hendrik, je voulais te demander, est-ce que oui. Tu te rappelles la première fois que tu as fait une balade en ville et que tu t'es dit, ah voilà, quelque chose d'intéressant que j'ai envie de refaire? Et dans quelle ville c'était et quand c'était?
Peut-être quand j'étais à Bielefeld en Allemagne et j'étais sur un réparage de films. Je faisais un film Super 8 et en même temps c'était lié avec un... Je cherchais des motifs un peu particuliers. J'étais avec une copine, on était un réparage en ville. Un moment très fort. À cette occasion-là. Mais j'imagine que quand je réfléchis, je vais trouver d'autres moments.
Et c'était quand ?
Ça, c'était il y a 25 ans. Mais en ville, on marche, tout le monde marche en ville et peut prendre une manière ou une autre, peut prendre plaisir ou peut donner une valeur à ça. Mais ça demande en fait deux choses à la fois. Il faut prendre une certaine distance, c'est-à-dire que c'est défaire de ses préoccupations quotidiennes, où on est quand même... On remplit des tâches, même quand on fait du sport, on court ou on fait quelque chose pour un certain but. Alors ça demande un certain détachement. Et en même temps, on vit ça, cette distance, en même temps on vit la proximité des choses.
Et on emprunte des voies que les citadins n'empruntent pas non plus.
Oui. Mais ce plaisir-là, il est ancien. Je pense qu'il y a une quantité de gens de partager cette expérience en tant qu'enfant. Et ça peut être, bien sûr, c'est plus simple dans la campagne, dans les terrains non urbanisés, mais ça dépend de l'expérience de chacun. Je pense que les enfants, s'ils sont en ville, vont forcément aussi trouver des chemins, des travers. Là, c'est un mur de soutènement récent qui est... Ce mur de béton si propre. Peut-être c'est fait pour stabiliser pendant le moment de crue. Là, c'est dans ce virage.
Alors, il a exactement la taille d'un écran de cinéma, ce mur en béton lisse, et il y a différentes feuilles qui sont projetées en ombre chinoise dessus. C'est un spectacle assez joli.
Oui.
Et on est au niveau de quoi, à peu près, là, de ce côté-là? Il y a quoi? C'est toujours la terre de bauxite, là?
Non, on l'a laissé derrière. Je peux regarder là, sur le plan. Moi, je pense qu'on est dans cette... On a laissé le terre rouge derrière nous. Et on est avant cette entreprise-là, parce que l'entreprise est très proche. Je crois qu'on va la rencontrer maintenant. Ça veut dire qu'on a fait à peu près la moitié du trajet, un peu plus que la moitié de trajet prévu. C'est comme c'est la charge de quelque chose. Un conteneur qui est vidé. Qui recule. Une pompe peut-être. On verra si c'est une pompe qui pompe quelque chose dans la rivière ou ce qui alerte là de l'eau. On verra. Comme une petite forêt.
Ouais, c'est presque bucolique ici, on dirait un peu un tableau classique comme Poussin qui aurait été recouvert de déchets ménagers, quelque chose comme ça.
On pourrait imaginer qu'un sentier ici, ça peut être, le cadre sera propice pour promenade.
Now, pay close attention to this stereo phenomenon. The stereo groove which follows this announcement contains two separate programs of music which sound like this when played together at the same time by the same stylus in the same group.
Funk is free. Attention.
Doris Big Jew to the max. Doris Big Jew to the max.
Groove.
Funk is us, funk is free. Funk is you, funk is me.
Mais peut-être que les gens qui, comme toi, pratiquent à Marseille la promenade urbaine, vous êtes pas mal entre les collectifs et les individus. Ça doit faire une quinzaine de structures qui font de la marche, la promenade urbaine. Mm-hmm. Peut-être qu'on pourrait imaginer que vous traciez quelques sentiers officieux, en débroussaillant un petit peu, etc., qui invitent les gens à les pratiquer, qui soient un petit peu une invitation faite au pouvoir public de prendre soin de ces endroits-là. Mm-hmm. C'est une idée. Hein.
Oui, il y a des tentatives de ça. La Reine a préparé à l'occasion du Festival d'Art des Lieux à tracer quelques chemins comme ça. Mais ce n'est pas simple parce que ça provoque, comme c'était le cas d'ailleurs à la ville, ça provoque très vite la suspicion des riverains et qui mettent très vite... des obstacles. Oui, moi je l'ai moi-même, je l'ai vu, même sans avoir débroussaillé un chemin, juste par mes simples passages, tombé plusieurs fois après sur des barrières, c'est-à-dire que des riverains ou d'autres qui ont barré le chemin à cette pratique de promenade. Alors j'ai rencontré en printemps un groupe d'étudiants à l'IUR, l'environnement, je crois, à l'IUT, une formation de l'environnementaliste à la fac Saint-Charles, qui ont fait une analyse du quartier des Zégalates et qui ont s'est penché aussi sur cette ruisseau Zégalate, ont eu ces idées-là de cheminement. Ils ont même eu un rendez-vous à la fin de leur stage, ou à la fin de leur projet avec des responsables municipaux. Mais on a... ils ont dit que ça a eu, c'était un intérêt, mais assez vague. Et je soupçonne même que les étudiants n'ont pas réellement fait ce parcours qu'on vient de faire, ils n'ont pas vu réellement les galades. Mais ces idées, elles existent peut-être, ça trouverait une fois une suite. Mais là, les accès aux galades ne sont pas simples, c'est des terrains qui ne sont pas passables, comme les grands complexes de la raffinerie, par exemple, ou des zones d'activité, ou les friches industrielles, ou ce qu'on vient de longer, toute cette série des entreprises. Alors, il y a un exemple, l'aménagement du berge d'une ressource à Marseille, c'est l'Uvonne, c'est la dernière partie de l'Uvonne entre le stade Vélodrome et le parc Borély. Qui est bien adapté, mais qui s'adosse déjà à un des parcs le plus entretenu de la ville, mais avec un contexte tout à fait autre, quasiment pas d'activité, mais de l'habitat, des écoles.
On va passer sous le pont de la voie ferrée. C'est quelle voie ferrée, ça?
Je pense que c'est la voie ferrée principale qui va vers... vers Foss, je pense. Vers Arles.
Et la route.
Parce qu'il y a un deuxième, en parallèle, il y a un deuxième chemin de fer qui est la liaison Marseille-Aix, et qui est encore au-delà.
Je voulais te demander, tu te promènes pas mal avec des gens, tu organises parfois des promenades publiques, donc avec soit avec des amis, soit avec des confrères, des artistes, ou y compris des gens qui te sollicitent parce qu'ils veulent se promener avec toi. Est-ce qu'il t'arrive aussi de te promener tout seul ou jamais?
Oui, ça m'arrive aussi de me promener tout seul, mais c'est plutôt rare. Et normalement, que je préfère d'être à, au moins à deux ou à trois. C'est plus rigolo, c'est un peu c'est changé tout de suite. Je marche seul quand je suis obligé, quand je suis en train de faire un réparage pour un projet très précis. Il n'y a pas d'autres personnes disponibles à m'accompagner.
Donc la conversation ou à moins la compagnie fait partie intégrante de la promenade pour toi?
Oui, c'est un des plaisirs, évidemment. C'est un côté de social. C'est pas le promeneur solitaire, que c'est plutôt d'être en réaction à l'environnement, moins que d'être chez soi, méditatif. Là, dans ce cas-là, j'aime aussi, mais dans ce cas-là, je choisirais d'autres terrains.
Quel genre de terrain?
Des terrains, en fait, qui se prêtent à ça, des parcs ou la campagne, ou qui permettent d'être méditatif.
C'est vrai qu'ici, il y a tellement d'orties à éviter qu'on ne peut pas trop prendre le temps.
Orties et pierres, ouais, c'est quand même du relief ici. C'est difficile d'être... Oui, on peut être méditatif parce que c'est un peu l'abri du bruit de la ville, mais ce n'est pas pour autant tranquille parce qu'il faut veiller où on pose ses pieds.
Ouais, c'est une promenade qui tient un peu de l'exploration.
Mais qu'est-ce qu'on explore?
Le chemin n'est pas tracé, il n'y a pas de
oui,
GR.
Non, ça, pas encore. Hein. Là, c'est animé maintenant. Là. Il y a une verre plat, un planari, et il y a une crustacée qui grimpe sur le sol. Quand je dis tout à l'heure, quand tu m'as demandé d'où vient cette rivière, je dis probablement la réponse juste, mais l'eau, c'est notre affaire. L'eau vient de beaucoup plus loin. Parce qu'en partie de l'eau, c'est qu'ici, vient de la Durance, parce que c'est capté pour le canal de Marseille. Et une partie de l'eau du canal bifurque vers ici, les Égalates et Ruisseaux. Ça fait que même en été, en sécheresse, je me rappelle de passer ici en 2003, pendant l'été le plus chaud des derniers temps. Et la cascade et l'eau circulaient bien. Parce que l'eau vient pas seulement du nord de Marseille, mais carrément des Alpes. Ça fait que la qualité d'eau peut être, en principe, à la base, une bonne partie, en tout cas, de cet ruisseau, et l'eau très propre, même sur l'eau qu'on boit à Marseille.
Regarde, là, c'est tout mort, l'eau stagnante, les déchets partout, on dirait vraiment une vision du futur un peu apocalyptique, non?
Oui, et pourtant actuelle, oui. C'est-à-dire que les déchets datent bien d'aujourd'hui, oui. En même temps, c'est ambigu, parce que là, quand tu regardes ici, cette bord avec des très hauts platanes, on dirait presque une parc, c'est presque aménagé, quand on fait abstraction de l'eau même, de l'eau stagnante. Le plus sale que j'ai vu était en Chine, dans les grandes villes en Chine. Là, on peut avoir à côté des superbes jardins, des maraîchers, et à côté il y a des rivières qui sont noires de pollution, probablement de pollution industrielle.
Alors, qu'est-ce qui est chargé au niveau des collectivités du suivi de ces voies d'eau, de ces ruisseaux, de ces rivières?
Alors ça, c'est un peu compliqué. En principe, c'est toutes les rivières en France sont gérées par la police d'eau. On appelle ça les qui ont la fonction de surveillance. C'est dans la main des voies navigables de France, pour des rivières navigables et des pots de ruisseaux, des rivières plus petites. C'est la direction départementale de l'agriculture et de la forêt qui a cette fonction-là et qui est la police d'eau et qui peut donner la gestion d'une rivière à une association. mais pas forcément, je ne m'attends pas que le ruisseau de la Galate est géré par quelqu'un. Et après, il y a les réseaux de surveillance, il y a plusieurs d'autres institutions d'État. Il y a un réseau de surveillance de la DIREN qui évalue la pollution. Et j'imagine qu'il y a peut-être aussi au niveau communal, ou j'espère qu'il y a aussi quelqu'un qui est responsable du ruisseau.
Bon, on a maintenant quitté la partie aménagée du ruisseau. Là, c'est vraiment redevenu sauvage. Mais l'aspect du ruisseau est complètement dégoûtant. Et on est à quel niveau, là, à peu près, dans la ville? Parce qu'on a complètement perdu. Ça fait deux ou trois heures maintenant qu'on n'a pas aperçu la ville. On entend vaguement des rumeurs, des trains, des bruits. Mais on voit que le ciel d'ici, à travers les arbres. Et on est à peu près où, là?
Alors, premièrement, on n'est pas complètement à l'extérieur des civilisations. Parce que là, je vois ici un ancien aménagement, peut-être même un vieux musée, peut-être quelque chose relation avec le moulin. Là, on est proche on se rapproche maintenant des agalades, c'est-à-dire qu'il y a les cités des arts de la rue en train de s'installer dans un ancien site industriel. Et je pense qu'on est à peut-être un demi-kilomètre de l'arrivée. Il y a maintenant deux cascades qui vont venir, qui sont aménagées pour être un moulin. Qui étaient aménagés, qui l'ont plus, évidemment. Et on rentre maintenant dans une zone de tuf, c'est-à-dire que une production du pierre primaire. C'est l'eau calcaire qui dépose le calcaire dans les mousses et qui crée la pierre. Souvent en relation avec les cascades. Et là, très bientôt, on rentre dans cette zone. Il y a peu de cette zone en Provence, il y a Saint-Gémenos, le parc Saint-Pons, et dans le Var, il y a un site, et le troisième est ici, aux Agalades. Alors, ce site, il est vraiment spectaculaire, c'est un des deux cascades du ruisseau, aménagé. Alors, on voit les murs, on voit les passerelles en métallique qui le traversent. Et tout ça sur un mur ou une falaise de 12 mètres peut-être. Et maintenant, ce site est devenu un peu connu grâce à la cité des arts de la rue qui sont installés à côté. Alors, ils peuvent de là, on peut accéder à cette passerelle. Et nous, il y a des marches en fait sur le côté ouest. On n'a pas besoin de grimper. Alors à côté, c'est une des dernières savonneries de Marseille, une des peut-être il y a trois, Marseille encore, qui produisent de manière artisanale. Alors à l'intérieur, il y a encore les bassins, en fait, le grand bassin dans lequel ils ont coulé de la marmite, le savon qui était coupé après avec des espèces, comment on appelle ça, des charrues, des espèces de charrues ou des couteaux, fait des grosses blocs. Il y a peut-être une douzaine d'années, ils ont changé, ou 15 ans, ils ont changé le processus pour. Et maintenant, ils ont toujours les anciennes marmites, mais maintenant, c'est plus coulé dans les énormes bassins, dans les piscines, mais c'est coulé maintenant, c'est injecté dans des presses extrudées et sort un énorme estron de savon qui est coupé et qui est mis après sous cellophane. Mais toujours avec des ingrédients traditionnels, là, qu'est-ce que c'est, la soude, c'est de l'huile et quoi encore. Et il utilise de l'huile de copra ou de l'huile de coco, ou de l'huile de. Oui, bien sûr, de l'huile d'olive pour le savon verte, noire ou blanche, blonde. Mais j'ai appris en discutant avec le gardien de l'usine qu'ils envisagent le déménagement parce que le terrain n'est pas très stable. Et pour les décharges avec les camions. Mais je n'ai pas d'autres informations.
quand je suis arrivé à Marseille, il y a 12 ans, je travaillais dans cette usine. Je fais des, à l'époque, je préparais une exposition en Serbie. Et je voulais faire des sculptures qui sont déjà en relation avec Marseille. Alors je coulais, je fais des moules et je suis, pendant 4 semaines, je suis allé le matin, tous les matins, couler mes sculptures de savon. Et à l'époque, le directeur de l'usine, le directeur technique, était très ouvert à l'art contemporain. Il racontait qu'il y a quelques temps avant, qu'il nous a accueilli en fait avec les mots qu'il aimerait bien travailler de temps en temps avec les artistes. Et il me racontait de son expérience avec Fabrice Hiver, qui a pour un des biennales à Lyon a produit les plus grandes savons du monde. Un bloc, je crois, de plusieurs tonnes. Et il racontait que Fabrice, après l'exposition, a voulu laisser cet énorme bloc dans le cours de la salle d'expo, du cours du musée. Il imaginait que l'eau diluait le savon et le directeur d'ici le persuadait que ce sera un grand désastre, c'est de très cochonnerie. Alors ils ont organisé une vente aux enchères, ils ont transonné cette sculpture de savon pour vendre la sculpture en pièces. Et sur notre gauche, il y a le cimetière des Égalades, qui va venir dans quelques dizaines de mètres. Et on entend au fond, on entend l'autoroute de A7. Oui, alors sur cette dernière tronçon, ici là, je suis venu à côté de la savonnerie, je suis venu une douzaine de fois et je n'ai jamais vu les lits à sec. Il y a même normalement qu'il y avait des bassins, qui étaient des bassins profonds.
Ah là, il n'y a pas une goutte d'eau.
Non, ça nous facilite le passage, mais c'est curieux, l'absence de l'eau. Et ici, à cet endroit, pendant mes premières venues, il y avait un petit Bouddha qui était posé dans une niche et qui regardait, qui semble méditer sur cette proximité entre les désastres écologiques et la beauté du site, mais qui a disparu après quelques temps. Alors, ce site ici fait partie en quelque sorte du patrimoine de Marseille parce que c'était un arbre, c'était décrit dans la littérature du 19e comme un havre de paix, de fraîcheur, et que c'était un lieu de promenade et d'excursion de dimanche. L'ermitage, la cascade, les fraîcheurs des Égalades. Et et les lieux étaient en partie détruits avec la construction de l'autoroute, mais pas intégralement. Alors les cascades sont toujours là. Une partie de cette vie de dimanche, d'autres fois encore.
C'est quoi ce gros animal?
Un rat. Il semble pas être perturbé par notre présence.
Non.
L'eau n'était pas aussi. Alors il y avait toujours des poubelles, des bouteilles de plastique, mais ça coulait en fait, qui donnait un charme au lieu. D'autres choses qui a changé en fait, c'est le bruit. Alors avec le ruissellement et les chutes d'eau. Ça masquait entièrement l'autoroute. C'est-à-dire que quand on est ici, on ne voit pas l'autoroute qui est à 10 mètres d'ici, à 15 mètres d'ici. On n'entendait pas. Mais maintenant, on ne peut pas faire abstraction.
Et quand on est sur l'autoroute, comment on sait qu'on est au-dessus du ruisseau des Égalades? C'est quoi le point de repère?
C'est très simple. D'ailleurs, la cascade, si, quand elle coule, on le voit. Il est bien visible sur la falaise et c'est le moment de rétrécissement, où les falaises se rapprochent le plus de l'autoroute. Et c'est indiqué aussi par les panneaux qui indiquent l'ermitage des Carmes.
C'est bon ?
Oui.
Hop, je saute. Résidence Les Créneaux. C'est par là ?
Oui, c'est par là.
C'est vrai qu'après cette promenée de 3 heures sur le long du ruisseau des Égalades entre le parc Billou et l'autoroute là, enfin, personnellement en tout cas moi je suis un peu révulsé parce que c'était une promenade qui était intéressante mais pas agréable au sens premier du terme. Ça sentait mauvais, c'était pas beau, c'était un drôle de mélange d'un joli coin vraiment saccagé. Donc c'est vrai qu'après ces 3 heures on se dit qu'il faudrait faire quelque chose, il faudrait que ça change. Est-ce que toi c'est... Tu as seulement l'usage de ces lieux, tu les aimes bien parce qu'ils sont un petit peu interlopes, ou est-ce que tu souhaiterais, tu penses que ce serait souhaitable qu'ils soient transformés, qu'on en prenne soin, qu'on dépollue, qu'on nettoie, etc.
Oui, ça serait bien de les dépolluer et que ça devient, que les potentialités du site se dégagent. Oui. Mais sans que ça, mais en même temps qu'il y a une culture d'aménagement très rigide dans le sud qui fait qu'on a peur de l'autre et qui fait les exemples de l'aménagement de lieux amassés en parc, mais stimule pas trop quand je pense par exemple aux premières tronçons du parc de Belvédère autour de l'Ussée Nord. Un lieu que je connaissais, que c'est un lieu de promenade pour moi avant, que je connais maintenant après l'aménagement et qui est très triste à voir. Il y a des chemins qu'ils ont fait pour des camions maintenant. Et c'est pas que ça qui est perdu pour moi, qui a perdu tout son charme. Après, ça dépend quand on aménage. Pour une promenade, ça dépend beaucoup comment on le fait.
C'était la dernière émission de la série estivale Ville Nature, proposée par Baptiste Lanaspez. Dans le prolongement de son livre Marseille, énergies et frustrations, paru aux éditions Autrement en mai 2006.